au Café des Psaumes, un rendez-vous culturel présenté par Antoine Spire sur Judaïque FM.
Bonjour à tous, comme chaque dimanche, c'est Livre au Café des Psaumes. Livre au Café des Psaumes où je reçois cette semaine Gérald Tenenbaum. Gérald Tenenbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, mathématicien, à la tête de 7 ou 8 romans maintenant. Vous avez eu le prix Erckmann-Chatrian pour l'Ordre des Jours. Et vous aviez publié Rendez-vous au bord du nombre, Souffle couplé, chez Héloïse d'Ormesson. Et je ne dis pas tout, je ne raconte pas tout. On peut dire que vous êtes aujourd'hui un romancier confirmé et vous venez de publier aux éditions de La Grande Ourse, Peau vive. Alors, laissez-moi peut-être juste dire quelques mots du livre lui-même avant que je ne vous interroge sur ce livre. Parce que je crois que c'est important d'essayer de comprendre que Eve Reiser, qui est l'héroïne de ce livre et qui a 37 ans, chargée de recherche à l'INSERM, un labo de biologie du développement, elle a une peau extrêmement sensible, incandescente, et elle est prise en octobre 88 dans un attentat qui va ravager le cinéma Saint-Michel à Paris. On sait qu'il y avait un film qui était projeté et qui ne plaisait pas à l'extrême droite. C'est comme ça qu'il y a eu un attentat épouvantable.
Oui, fondamentaliste chrétien.
Oui, oui, et ouais. Eve est sauvée grâce à l'intervention d'un mystérieux passant qui signale à un pompier qu'elle est encore dans le cinéma, voilà. Alors qu'on a déjà sorti un certain nombre de victimes. Alors la première question que je voudrais vous poser, avant qu'on vienne, je dirais, au déroulé du roman, c'est qu'il y a tout au cours du roman des interventions de ce personnage étrange qui a une longue cape noire, en tout cas c'est comme ça que je le vois, un foulard rouge. La cape est rouge. Ah non, il a un foulard rouge,
oui,
une cape noire. Enfin, moi, je les vois.
Un imperméable.
Peut-être que je vous ai mal lu. Alors, un imperméable. Et il intervient à plusieurs reprises, chaque fois qu'il y a des difficultés dans la vie de votre héroïne Eve, qui est au fond absolument étonnante, à la fois, je dirais, combative et en même temps extrêmement fragile. Elle a une fragilité qui touche sa peau. Alors, on ne sait pas très bien si sa peau a été fragilisée par l'attentat en question avec le feu ou si elle était à l'origine fragile. Mais je crois qu'elle était à l'origine fragile.
Oui, oui, bien sûr, elle était. C'est un traumatisme d'origine familiale. Je veux dire, Eve est une petite fille de déportée. Elle a une empathie pour son père qui, lui, a perdu ses parents dans la déportation.
Et Jean ou Yankel.
Voilà, Jean ou Yankel. Et à un moment, la mère d'Eve et de sa sœur...
Simone, elle
abandonne. Elle quitte le navire.
Elle ne supporte pas cette référence continuelle.
Elle n'en peut plus. Elle dit, bon, à force de vivre comme ça les uns trop près des autres, on s'est mis les nerfs à fleur de peau et elle n'en peut plus et elle abandonne et elle confie le père et la douleur du père, elle le confie à ses filles et donc particulièrement à l'aînée. Et c'est à ce moment-là qu'une décharge électrique se produit dans la peau d'Ève et qu'elle devient hypersensible, cette peau qui ne supporte plus aucun contact.
Alors c'est très étonnant parce qu'on a l'impression que cette fragilité, qui est bien sûr héritée du passé, de la Shoah, est une fragilité presque constitutive du personnage. Et que vous avez voulu, au fond, nous dire que les traces de la Shoah se lisent dans le corps des enfants, et là des petits-enfants.
Oui, c'est ça. Effectivement, c'est une réflexion qui m'est venue en côtoyant des familles qui ont été traumatisées et qui ont subi des pertes, c'est de voir que la blessure se transmet de génération en génération, mais elle se transmet en se transformant. Et donc, à force de voir un certain nombre de problèmes de peau dans ces familles, des psoriasis, des démangeaisons, toutes sortes de problèmes de peau, et en même temps avec cette idée que la famille c'est la peau et que voilà, que toucher à la famille c'est toucher à la peau, quand la peau a été arrachée, donc on se retrouve avec ce problème de contact impossible et donc évidemment une vie amputée.
Gérald Tenenbaum, l'impression que j'ai eue c'est que progressivement cette image de la douleur dans la chair, de la douleur dans le corps des enfants et des petits-enfants prend une place considérable dans le roman. À un moment donné, bien après l'attentat, vous écrivez « Vivre est le plus souvent indolore comme respirer ». Comme si vous nous disiez « Allez, c'est quand même indolore. Pour d'autres, c'est pas une douleur. » Ce qui signifie que vivre est une douleur pour votre personnage principal ?
Oui, vivre est une douleur puisque, je dirais, elle est en permanence frustrée par cette impossibilité du contact. Alors elle se réfugie dans l'imaginaire et elle a une sorte de double vie. Elle a la vie réelle où elle est chercheur effectivement à l'INSERM. Elle cherche pas sur n'importe quoi d'ailleurs, elle cherche sur les cellules cancéreuses, celles qui justement qui ne s'arrêtent pas au stop, pour lesquelles le contact n'est pas une barrière. Et puis elle a cette vie dans l'imaginaire, alors particulièrement dans la littérature, les chansons, le cinéma, où elle peut vivre une vie qui lui échappe dans son quotidien.
Alors ça lui échappe d'autant plus qu'elle ne peut pas supporter le contact avec qui que ce soit. Et par exemple, l'homme dont elle est proche, qui s'appelle André, qu'elle a connu quand elle était jeune, attend l'esquisse d'une caresse. La caresse est quasiment impossible puisque le contact des peaux est impossible. Et en fait, André, qui est lecteur de poèmes, qui est très fin et qui est amoureux d'elle, à un moment donné, il lui offre et des fleurs et du temps, écrivez-vous.
Oui, c'est ça.
Ce qui est assez joli.
Il lui offre des fleurs et du temps et il attend que le problème se résolve. Et elle-même espère que ce problème va se résoudre, mais le temps passe. Et là, on est un petit peu au dernier cara, puisque bon, elle a 36 ans quand le livre commence et le problème n'est toujours pas résolu.
Gérald Tenenbaum, la famille demeure à jamais la peau. Je dirais que c'est ça la thèse du livre. C'est la peau, au fond, qui est le symbole de la famille. Alors, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez en perspective ? Le père est dans un atelier rue de l'Échiquier, la mère est donc à Bruxelles, puisqu'ils se sont séparés, elle va pratiquer l'approche systémique en psychologie, et elle a refait sa vie, cette Simone, avec un antiquaire protestant et précieux, comme si elle avait voulu se défaire du judaïsme.
Oui, oui, oui. Et puis elle l'a défaite à nouveau.
Ensuite. Mais le lien avec la famille reste pour Ève absolument fondamental. Et au fond, la thèse qu'il y a derrière ce roman, et qu'on lit continuellement à travers ce que vous en écrivez, c'est que cette famille, c'est la peau. C'est-à-dire qu'au fond, on est obligé de faire référence à la famille pour trouver sous la famille, l'intimité. Un peu comme si... Il n'y a pas d'intimité sans famille ?
Il n'y a pas d'intimité sans famille. En tout cas, il n'y a pas de famille sans intimité. Mais c'est
ne
vrai
que... Ne fuyez
pas
la question. Il n'y a pas d'intimité sans famille ?
D'intimité sans famille, je ne sais pas. C'est difficile, je veux dire, la famille, et c'est ce qui vous rapproche des autres. Enfin, c'est le premier lien, c'est le premier lien, le lien aux parents. Donc, je pense que c'est, je dirais que la famille est peut-être le modèle de l'intimité. Voilà. Et ensuite, chacun peut créer sa propre intimité, peut l'inventer comme il le souhaite, mais le premier modèle est certainement la famille.
Alors quand vous dites modèle, on revient à la peau comme intermédiaire. La peau, oui, comme la famille, sont finalement des intermédiaires avec cette intimité, soit avec la famille, soit avec d'autres. Mais finalement, si on veut aller au cœur d'un personnage, on est obligé de passer alors par la peau,
oui,
et par la famille.
La peau, c'est la frontière. Alors comme toute frontière, c'est à la fois... ce qui vous sépare des autres, la peau, je veux dire, voilà, il y a l'intérieur et l'extérieur, et en même temps, se toucher, c'est le contact avec les autres. Donc c'est à la fois ce qui vous rapproche des autres et ce qui vous sépare des autres. Donc c'est vrai que je suis toujours intéressé en littérature à explorer les frontières. C'est vrai que toutes les formes de frontières m'intéressent, puisque c'est toujours à la frontière, à la marge, que se produise, que se cristallise le sens.
Alors je dirais que ça, c'est le fil rouge le plus explicite du livre, et il est très réussi. Mais il y a une question que je me pose. et qui est moins poussé. Si j'avais été votre éditeur, je vous aurais poussé à le développer. C'est ce personnage qui est là à plusieurs reprises. Quand il va y avoir l'attentat à Saint-Michel, donc, ce passant va être là, avec ce grand imperméable, avec cette foulard rouge. Lorsqu'elle va partir en RDA, on va y revenir tout à l'heure, à deux reprises, cet homme à l'imperméable sera présent. Et si vous voulez, quand on lit ça, il y a un mystère. Alors moi, je cavalais pour lire le livre, et je me suis dit, à un moment donné, je veux quand même savoir un peu qui est ce personnage, et de quelle nature est ce personnage. Et on ne l'apprend jamais. Alors, je comprends que vous vouliez laisser un point d'interrogation, mais comprenez que le lecteur se sent un peu frustré quand il a terminé le livre de ne rien savoir sur ce personnage.
Rien savoir, c'est...
Pas grand-chose.
Si, on sait quand même... enfin, je veux dire, il apporte en tout cas la solution du problème d'Ève. Ce personnage est justement... Enfin, disons, mon écriture, j'essaye d'établir une sorte de connivence entre l'auteur et le lecteur. Et ce personnage, il est au choix du lecteur. J'ai eu certains lecteurs qui m'ont donné une interprétation sur ce personnage. D'autres, on peut considérer que ce personnage n'existe pas et qu'il est uniquement dans l'imaginaire d'Ève, puisqu'après tout, Ève est emprisonnée par son imaginaire. Elle peut très bien se libérer par son imaginaire. On peut croire à une présence plus énigmatique, plus fantastique. Je veux dire, il est présent tout au début de la vie d'Ève, puisqu'il rencontre...
Quand elle était petite fille. Alors, à un moment donné, le père est entré dans la synagogue un jour de Kippour. Et il a laissé sa fille à ce passant qui était là.
Voilà.
Et qu'il, au fond, passant, on s'étonne, qu'il laisse sa fille à ce passant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va retrouver sa fille avec trois grains de beauté sous forme de triangle.
Voilà.
Bon, c'est assez étrange. Alors, je comprends que vous vouliez cultiver un certain mystère, mais je dirais que on aurait peut-être souhaité voir ce mystère élucidé au cours du livre. Pas forcément totalement élucidé, mais peut-être en savoir un petit peu plus.
Ce personnage, pour tout vous dire, c'est pour moi une figure du juif errant. Homme qui parcourt, d'ailleurs on fait référence au juif errant plusieurs fois dans le livre.
Et un film consacré au juif errant. J'ai recherché l'existence de ce film sur Internet.
Oui.
Moi je ne l'avais pas vu, ce film. En fait, il a été monté, c'est un film italien.
Oui, tout à fait.
Italien.
Avec Vittorio Gassman.
Avec Gassman, oui.
Oui, c'est le premier film, le premier grand rôle de Vittorio Gassman, un film de Alessandrini, donc un cinéaste qui a été utilisé par le fascisme, mais qui a une histoire assez compliquée, je dirais, qui a adapté des films, qui ensuite ont été censurés par la censure fasciste, donc
il est très ambigu,
film n'est pas ambigu, mais le personnage, le cinéaste,
Alessandrini est très ambigu.
Tout à fait. Oui.
Donc j'ai cru comprendre que si ce personnage est sorti de ce film, que l'ambiguïté de ce personnage à côté de Ève, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je me suis dit non, ça peut pas être le personnage sorti du film. Vous voyez,
c'est
un personnage extrêmement positif. Il protège Ève de chaque fois qu'elle a des ennuis.
Oui. J'ai eu envie de revisiter le mythe du juif errant, qui est un mythe moyenâgeux, chrétien, où le juif errant symbolise un petit peu le peuple juif qui est condamné pour avoir tué le Christ. Et donc, il est condamné. Alors, le Christ qui est amour, qui est pardon, et là il ne pardonne absolument pas, et il condamne le peuple juif à errer parmi les nations. Bon, il le condamne à la diaspora. Et
qu'est-ce que vous faites avec cette idéologie catholique là? C'est incroyable.
Ben, ça m'intéresse, le rapport entre les deux religions, le rapport entre les deux religions m'intéresse. D'ailleurs, il y a beaucoup de références, ne serait-ce que la dernière tentation du Christ, ne serait-ce que les noms des sauveteurs qui sont en fait les noms des apôtres. Il y a un certain nombre de références au christianisme dans le livre.
Et, c'est une tentation, le christianisme, pour vous?
Non, pourquoi?
Je ne sais pas, parce qu'on se pose la question.
Non,
vous-même, vous dites que c'est, au fond, ce juif errant, quel personnage positif du livre.
Oui.
Il a été, au fond, condamné par Jésus, et c'est lui qui,
oui,
finalement...
Ben c'est le mythe, ça. C'est le mythe du juif errant est un mythe chrétien, moyenâgeux et négatif. Et donc, moi, j'ai eu envie de revisiter ce mythe et d'en faire un personnage positif, justement parce qu'il parcourt le monde, donc il est à tous les endroits où il se passe quelque chose dans le monde, et particulièrement au moment de l'histoire où il y a une libération. Donc ce personnage, il est présent au moment de la chute du mur de Berlin, et il aide, la judéité contemporaine, elle est empreinte d'une présence des morts, d'une présence d'autant plus prégnante des morts que les morts n'ont pas de sépulture. Donc la seule sépulture des morts dans la judéité actuelle, c'est dans l'imaginaire et dans la mémoire des vivants. Donc ce juif errant, ce personnage qui parcourt le monde, il est à la fois là pour témoigner de la présence des morts chez les vivants et en même temps pour les aider à se déprendre. C'est toute la problématique de la peau, à la fois ce qui vous rapproche et ce qui vous sépare des autres, mais à un moment donné, il faut tout de même une séparation pour arriver à vivre sa propre vie.
Alors, bien évidemment, un lecteur un peu réaliste sera plus intéressé par la protection paternelle pour Ève, parce qu'au fond, il y a un lien très très fort, vous l'avez dit tout à l'heure, avec son père.
Oui.
Ce père est un militant communiste. On le voit à un moment quand il est jeune, donc vendre l'humanité dimanche. Il est vraiment très très militant.
Oui.
Et curieusement, il travaille dans une entreprise qu'il a fondée avec un copain. Le copain est devenu patron, mm-hmm. et lui est devenu salarié. Et Eve trouve pas ça très bien parce qu'ils ont fondé ça entre eux.
Oui, c'est
et
ça.
Oui, elle n'aime pas que son père soit le second et son père il s'en fout. Enfin,
Oui, lui effectivement, il travaille les peaux justement. Donc on est vraiment dans l'univers de la peau. Il les coupe, il les entaille. Et Eve est assez agacée de la disparité qui s'est produite entre ces deux amis qui étaient des amis d'enfance qui ont subi la guerre ensemble, et puis à un moment donné voilà, l'un est devenu patron et l'autre ouvrier.
Alors dans la famille, puisque la famille est la peau, mm-hmm. il y a quelqu'un d'autre, c'est la sœur, c'est Irène,
oui.
qui finalement est assez présente, et cette Irène, elle est là bien sûr au moment de l'accident, enfin après l'accident, elle est au bord du lit de sa sœur qui a été brûlé dans ce cinéma et qui finalement va s'en sortir. Et à un moment donné, vous écrivez, parce qu'il y a des hommes avec eux, à mmh. trembler ou à pleurer, les hommes ne savent pas pleurer. Alors, je me suis posé la question, qui ne sait pas pleurer? Parce que le père, il sait pleurer apparemment.
Il apprend à pleurer toute enfin c'est pas enfin il pleure, mais c'est pas parce qu'il pleure qu'il sait pleurer. Je veux dire, les pleurs des hommes sont souvent des pleure, je dirais, à corps défendant. Je veux dire, une femme accepte plus facilement que l'émotion vienne et que se traduise par des pleurs. Je veux dire, chez un homme, les pleurs sont une sorte d'explosion qui n'est pas acceptée.
Bah, pourtant, on a l'impression que quand le père découvre sa fille et qu'il comprend que sa fille va s'en sortir, et qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il va pleurer au bord du lit de sa fille, il accepte les pleurs, il se laisse aller.
Les pleurs déferlent, je ne pense pas qu'il les accepte. Je dirais, les pleurs surgissent de manière incoercible. Comment dire, autour de ce lit d'hôpital où Ève est inconsciente, mais reçoit tout de même des signaux, et où on peut enfin la toucher, alors que depuis des années, il était impossible de la toucher, et la famille s'autorise. Elle aurait pu ne pas le faire, mais elle s'autorise. Et d'ailleurs, Irène, la sœur, autorise André. Est-ce que je peux l'embrasser? Alors elle dit, mais est-ce que c'est si important? Il dit, ben oui, c'est si important, ça fait des années. Et donc elle lui dit, ben vas-y, tu peux le faire. et donc un certain nombre de choses qui n'ont pas pu ni être faites ni être dites vont se libérer autour de ce lit. Et Jean, le père, va enfin pouvoir raconter cette histoire où il a abandonné sa fille, lui-même qui a été abandonné par ses parents, parce qu'ils ont été déportés, n'a jamais pu accepter qu'il ait abandonné sa fille, ne serait-ce qu'un instant, devant la synagogue pour aller...
Un quart d'heure, on peut faire des comparaisons.
Un quart d'heure, il l'a donné à un étranger. Il l'a donné à quelqu'un qui n'avait jamais vu, qui ne connaissait pas, qui pouvait très bien repartir avec. Enfin, donc c'est quelque chose... en tout cas, lui ne se le... Peut-être que vous le pardonneriez, mais lui ne se le pardonne pas. Et il raconte cette histoire, et effectivement, ça se termine avec des larmes.
Alors, larmes d'André aussi, on a l'impression qu'André est capable de pleurer, justement.
Oui,
c'est
oui.
un homme finalement très fin.
C'est un
et
homme.
Et pourtant, il a été Maus Montex. en tout cas, c'est ce que vous dites.
Mais...
Alors, donc, vous l'avez retourné après Maus
personne,
Montex.
Personne
voilà,
n'est
très
parfait.
Fin, il est dur politiquement, puis ensuite, il est très fin.
C'était une époque, 1968, il y a beaucoup de gens ont été Maus Montex, sauf ceux qui étaient évidemment purs et durs dans la droite ligne du parti.
Toujours est-il que lui, avec Ève, ils ont lu ensemble « Si c'est un homme
oui. ».
Si j'ai bien compris, il y a chez eux des tas de gestes de séduction qui sont passés sans qu'il y ait eu ce contact, puisque
oui.
le contact était impossible. Et alors il y a un parfum, l'air du temps, formidable parfum qui a dû vous toucher, puisque c'est le parfum que met Ève et qu'André considère comme un parfum remarquable.
Oui, parce que c'est aussi un parfum. C'est aussi le parfum est aussi ce qui va d'un être à l'autre. C'est une forme de contact. Donc toutes les formes de contact qui peuvent remplacer le contact réel sont évidemment précieuses pour ce couple qui est en formation et qui n'a jamais pu concrétiser un couple normal.
Paraît héroïque cet André, hein. Je veux dire, sympathique, héroïque, il accepte qu'il n'y ait pas de contact, il continue,
il attend,
il donne
mais
des fleurs, il
mais
attend,
il attend, mais, hein. il attend, mais pas forcément éternellement, je veux dire, il a pas forcément l'éternité devant lui, contrairement aux Juifs errants.
Toujours est-il qu'il porte les valises pour aller à la gare au moment où Ève va partir, puisque Ève va partir.
C'est un homme amoureux.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Non, mais l'amour, c'est pas forcément d'avoir cette espèce de renoncement total à lui-même.
C'est pas un renoncement. C'est pour l'instant, il a un espoir. Il attend, il voudrait et il espère que le temps qu'il a offert à Ève sera mis à profit et il a raison d'attendre. Puisque,
oui, mais avant qu'il soit mis à profit, après le coma, vous écrivez ce que je ne savais pas. Qu'il y a de grandes difficultés, pétries de désillusions, de frustrations après le coma, et que la vie n'est pas facile, que la convalescence de Ève à Anderlecht semble très difficile. Alors curieusement, elle va faire prendre sa convalescence en Belgique, mm-hmm. retrouver
oui.
sa mère,
oui.
que vous avez rendue très antipathique, pour avoir quitté cet homme plein de souvenirs et plein de passé, et pour avoir quitté sa famille pour refaire sa vie. Mais non, Ève... Alors là, on est étonné. Paradoxalement, va rejoindre
oui,
sa mère
tout à fait.
Pour la convalescence.
Oui, oui, oui. Il y a un moment où elle se ressource auprès de sa mère. Elle accepte finalement de retrouver sa mère. Et c'est un peu effectivement surprenant dans l'économie du livre, mais elle accepte d'aller passer quelques jours avec sa mère parce que il y a des paroles qu'elle attend et qui doivent être dites et qui seront peut-être dites entre elle et sa mère. Et elle a besoin de ce moment de ressourcement avant de prendre cette grande décision qui consiste, c'est d'ailleurs à Anderlecht avec sa mère qu'elle prend cette décision d'aller au mur. Alors la mère lui dit le mur
de Jérusalem,
voilà, Jérusalem
et c'est le mur
évidemment,
de Berlin.
Et ben non, c'est le mur de Berlin. Qui la ramène évidemment à l'histoire de son père.
Alors, vous croyez qu'il y a eu une ambiguïté dans la vie d'un certain nombre d'entre nous entre le mur de Jérusalem et le mur de Berlin ?
Un mur debout, c'est toujours un défi. Et Ève est enfermée entre quatre murs, en fait. Pas seulement, il y a le mur de Jérusalem, il y a le mur de Berlin, il y a le mur du ghetto de Varsovie. À un moment donné, quand elle part à Berlin, elle s'aperçoit que le train, en fait, va jusqu'à Varsovie. Elle se dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je vais à Berlin? C'est à Varsovie que je devrais aller, parce qu'il y a le mur du ghetto, et puis il y a le mur de sa peau, évidemment, de sa peau enflammée, qui la sépare des autres. Donc le mur de Berlin, qui est une incision dans l'Europe, qui empêche l'Europe de se libérer, est un symbole. Pour elle, c'est un symbole qui remonte à son enfance, puisqu'elle a toujours entendu parler du rideau de fer. D'ailleurs, elle pensait que le rideau de fer, c'était F-A-I-R-E. Donc, ce rideau est quelque chose qui fait vraiment partie du roman familial. Et donc, comme elle a décidé que sa vie doit être vécue pleinement ou pas du tout, eh bien, c'est vers ce rideau de fer, vers ce mur de Berlin qu'elle se tourne.
Alors le voyage à Berlin est remarquablement décrit, très fin, très intéressant, parce que pour ceux qui ont été à Berlin avant que ne tombe le mur, ils retrouvent des sentiments qu'ils ont connus, ne serait-ce d'ailleurs que pour avoir un visa, puisque la recherche d'un visa est extrêmement difficile. Vous dites 6 semaines, c'est ce qu'il fallait comme temps pour avoir un visa. Et en fait, comme pour elle c'est un peu long, elle essaye d'utiliser les copains de son père, qui sont communistes, pour pouvoir ralentir ce délai, raccourcir ce délai, et en conséquence, obtenir un visa plus vite. Et puis, bien sûr, le passage, les contrôles, la Stasi toujours présente, et puis la police à la frontière. Tout ça est très bien décrit, mais vous venez d'expliquer pourquoi elle a été à Berlin. Et je vais vous dire, c'est ça qui tient le moins. Autant le voyage à Berlin est très agréable, très fin, vraiment, on se rend compte qu'elle va chercher au fond des cimetières, elle va chercher les traces de son passé et du passé de son père. Mais finalement, pourquoi elle à Berlin? Alors vous m'avez dit parce que c'est un mur et qu'au fond, le mur est pour elle important. On aurait pu penser qu'elle aille au mur au Kotel. Non, pas du tout. Donc le Kotel est juste évoqué, mais il n'y a pas plus. Et donc, on se demande ce qui la motive profondément dans ce voyage. Autant le voyage est finement décrit, il n'y a rien de brutal, et c'est très agréable à voir, parce qu'on voit toutes les ambiguïtés de la vie en RDA et d'une recherche que peut faire, au fond, une fille de juif français lorsqu'elle va en RDA. Mais là, on s'étonne sur la motivation.
Le Kotel, c'est le symbole d'une mémoire. Le mur de Berlin est le symbole d'une séparation. Elle vit dans la séparation. On est aussi au moment où on sent que, on est juste avant le moment où le mur va tomber, et on peut sentir les prémices du fait que cette séparation va déboucher sur une réunification. Cette réunification, c'est l'exercice de la liberté des peuples. C'est une réunification qui a été faite par les peuples et non pas par les gouvernants. C'est donc l'exercice d'une liberté. Ève est à la recherche de sa propre liberté, donc elle va à cet endroit-là, qui est ancré dans son enfance, pour sentir l'endroit où la séparation va tomber. Et donc c'est essentiel à ses yeux et à mes yeux aussi de se retrouver à cet endroit-là de l'Europe, parce que c'est là que va se cristalliser la liberté des peuples, comme elle cherche à exercer sa propre liberté.
Ça, c'est pas très explicite. Je suis content que vous le rajoutiez, mais c'est pas très explicite dans le roman. Et la question qu'on se pose, c'est sa quête de la liberté se heurte d'abord, du point de vue des vivants en RDA. Elle va être dans une assemblée de gens de RDA. Elle a rencontré quelqu'un dans le train, dans son compartiment, qui va l'inviter. Quelqu'un qui, une fois de plus, va rechercher un père qui est parti, elle aussi, lui aussi. Et donc, elle va rejoindre cette famille. Et en fait, elle sera toujours une espèce d'être étranger à cette famille. Elle va être en dehors, un peu silencieuse, sans lien réel. Un peu comme si son seul lien était les morts. Et on la voit le long de la frontière, à l'intérieur de Berlin, chercher des cimetières et des traces du passé. Et bien sûr, la Stasi est inquiète de voir cet individu femme qui recherche
et qui rôde.
Et qui donc va l'arrêter. Et là... le miracle va intervenir, l'homme à la gabardine, à l'imperméable, au foulard rouge, va venir la sauver et empêcher que sa peau ne soit touchée par la police est-allemande.
Oui.
On va de miracle en miracle.
Certainement, on va de miracle en miracle. La liberté, l'exercice de la liberté, c'est un miracle. Et Ève est à la, elle est comme un ludion. Elle est seule. Elle cherche une existence et elle se rattache à la fois au passé. Oui, elle cherche dans ses différents cimetières à affirmer sa propre identité. Et elle s'aperçoit qu'il y a des cimetières de plusieurs générations. Voilà, il y a des cimetières en accès libre, il y a des cimetières qui sont interdits, il y a des cimetières où il y a des fleurs qui sont déposées. Et finalement, c'est dans le cimetière imaginaire qu'elle se retrouve elle-même.
Alors, ça, c'est très réussi, ce cimetière imaginaire où elle se retrouve. Mais il y a quelque chose qui est très spécifique, Gérald Tenenbaum, c'est que pendant qu'elle est arrêtée, elle explique qu'il ne faut pas qu'on la touche et qu'il faut qu'on la laisse aller. Et alors elle suggère au policier, elle dit au policier qu'il faut appeler son psychanalyste et qu'il va expliquer la situation.
C'est au moment de la traversée de la frontière.
C'est sidérant. Alors, traversée de la frontière, les policiers doivent appeler le psychanalyste. Et alors elle va passer.
C'est pas le policier. C'est la personne qui doit pratiquer la fouille.
Elle va appeler son psychanalyste. C'est typiquement une histoire que vous pouvez avoir, ça. Oui. Je retrouve, si vous voulez, l'espèce de méticulosité du mathématicien, mais c'est complètement absurde. Complètement absurde qu'un fonctionnaire de RDA accepte de prendre au téléphone le psychanalyste de la personne qui est en face de lui.
Elle n'a pas dit que c'était le psychanalyste, c'est le médecin.
Pour qu'il lui explique qu'il ne faut pas la toucher.
On a vu des choses plus extraordinaires que ça. Tous les gens qui ont échappé à l'extermination pendant la guerre ont tous des histoires qu'ils vous racontent qui sont bien plus extraordinaires que ça. Moi, j'en ai certaines dans ma famille.
Cette histoire-là absolument extraordinaire. Je vois mal un policier, vous voyez, accepter de prendre au téléphone.
Femme policier, je dirais, elle le fait pas comme ça. Elle le fait contre espèce sonnante et trébuchante. Je dirais, les policiers de RDA, effectivement, contre quelques marques dures, contre quelques monnaies de l'Ouest, bon, pourquoi pas, hein.
Formidable description alors de la RDA et du Berlin de la RDA, je l'ai déjà dit, l'hôtel métropole, les deux monnaies, c'est-à-dire les facilités qu'on a avec la monnaie occidentale et la monnaie de singe qui ne se diffuse que bien sûr en RDA. Alors, formidable passage à Rosenstrasse. Rosenstrasse, rappelons-le, vous le rappelez en quelques lignes seulement, c'est l'endroit où les femmes citoyennes ariennes qui avaient des maris juifs,
des maris ou des enfants, ou des enfants juifs sont venus manifester jour après jour jusqu'à la libération, jusqu'à ce qu'elles obtiennent la libération de leur mari ou de leurs enfants.
Elle est bien renseignée, votre Ève, parce qu'au fond, pour elle, ça existe, cette Rosenstrasse.
Oui, bien sûr, comme Rosa Luxembourg existe, et elle fait d'ailleurs un lien entre les deux. C'est une femme courageuse, et donc une sorte de traînée de poudre entre toutes ces femmes courageuses dont elle fait partie.
Alors, comme elle est à l'hôtel Métropole, c'est un hôtel suffisamment important pour qu'elle puisse demander son chemin et demander où est le cinéma, parce qu'elle veut aller au cinéma. Elle aime beaucoup le cinéma, vous l'avez dit.
Elle
va trouver un cinéma à Berlin-Est où on joue La Petite Vera.
Oui.
Finalement, on ne va pas aller le voir, La Petite Vera, mais elle a été tentée quand même.
Russe. C'est un film russe qui est le symbole d'une génération, d'une génération perdue, donc qui refuse de porter le flambeau. C'est vrai que d'un côté du rideau de fer, on a une génération qui n'accepte pas, et puis de l'autre, on a carrément une génération qui refuse.
Alors en fait, vous vous êtes documenté parce qu'au moment où elle est à Berlin, juste avant la chute du mur. Y a un journal qui raconte la mort de Pauline Lafont.
Oui.
Et vous mettez en scène cette histoire qui, d'une certaine façon, marque Ève, parce que Pauline Lafont, morte dans un précipice, etc., au fond, ça l'accompagne.
Bah oui, bien sûr, parce que c'est la solitude. Quelle plus grande solitude on peut imaginer que de mourir seule au fond d'un précipice. Elle se pose la question, combien de temps elle est restée là? Est-ce qu'elle a pu crier? Est-ce qu'elle a pu tendre la main? Quels ont été ces derniers moments? Et puis elle se pose aussi des questions sur le berger qui l'a trouvé plusieurs jours ou semaines après. Et elle se demande si elle-même n'est pas au fond d'un ravin, et si ce voyage à Berlin-Est, où elle s'est mise en danger effectivement avec ce danger de fouille, et de se retrouver comme ça dans un pays étranger où elle n'a pas l'impression d'exister tout à fait, n'est pas son ravin à elle.
Alors, curieusement, on l'accompagne bien sûr à la lecture de la Bible. Elle a lu Jérémie. Et au fond, elle sait qu'on peut renouveler ses jours. Alors, cette phrase de Jérémie revient 3 fois dans le livre.
Oui.
Renouveler ses jours. Expliquez-moi pourquoi ça l'accompagne.
Renouvelle tes jours comme autrefois. C'est-à-dire qu'elle est dans ce cimetière où le passé va affleurer. Et lorsque le passé affleure, c'est un petit peu comme dans une psychanalyse, on peut le reprendre et le remodeler pour fabriquer peut-être un autre avenir. Et c'est ce qu'Ève est en train d'essayer de faire. Elle vient dans ce passé, parce que le mur de Berlin, le rideau de fer, c'est son passé à elle, c'est son passé familial. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec les critiques que vous avez exprimées tout à l'heure. Et elle vient faire affleurer le passé, et elle vient faire revivre cette maison manquante qui deviendra la maison manquante de Boltanski, puisqu'elle est dans cette rue où cette maison manquante a été détruite, et elle va faire affleurer le passé, et le passé va renouveler ses jours, puisque à partir de ce moment-là, elle va enfin accéder à la lumière.
À la lumière et à la possibilité de contact.
Bien sûr.
Parce que la peau, à ce moment-là, ne sera plus quelque chose qui sera trop fin.
Sa peau ne sera plus une frontière infranchissable, mais ça restera une frontière. Et d'ailleurs, dans les derniers moments, elle explique qu'elle va avoir sa vie à elle, et puis que la vie de sa famille sera une vie différente. C'est un petit peu, tout à l'heure, quand on parlait de la famille, la famille n'est pas... on ne doit pas dissoudre l'intimité dans la famille. Je crois que c'est aussi ça, la morale de ce roman.
Y a une vision magnifique à la fin. 30 hommes et femmes, long manteau, comme cet homme au long manteau dont on ne sait pas très bien qui il est, un violoniste, un clarinettiste, un accordéoniste, et sont un orchestre. Et on a cette vision, on ne sait pas très bien où il est, cet orchestre. C'est un peu comme une vision qui accompagne la fin du voyage à Berlin de Ève.
Oui, ce sont tous ces gens qui affleurent du passé, qui sortent de son passé et de son imaginaire et de cette maison qui n'existe plus.
D'une certaine façon, le symbole est souligné par vous, puisque le livre va se terminer, on peut le dire parce que ça n'a rien d'une enquête, à la fois par la possibilité pour Ève d'avoir un enfant et pour le mur de tomber.
Oui.
Et le mur qui tombe et l'enfant
qui naît,
c'est concomitant, et vous montrez cette concomitance.
Oui, c'est vrai, son enfant naît le 9 novembre 1989, et c'est finalement le symbole de tous les murs qui tombent en même temps, de la liberté qui s'exerce et de l'avenir qui s'ouvre. Alors après, à cette époque-là, on pouvait fonder beaucoup d'espoir sur l'avenir. On sait aujourd'hui que certains de ces espoirs ont été déçus, en tout cas pour l'Europe, peut-être pas pour Ève.
C'est un livre profondément optimiste, finalement, parce que le peuple juif sauve cette Ève.
Oui.
Et au fond, cette Ève qui était si fragile, et j'ai évoqué tout à l'heure sa fragilité, elle va pouvoir continuer sa vie, trouver le bonheur grâce à une protection qui est la protection de son peuple.
Tout à fait. Je crois que c'est exactement ce qu'on peut... C'est tout à fait juste.
Alors, est-ce que vous avez voulu, au fond, montrer qu'il y avait des perspectives pour le peuple juif en Europe, à l'heure où un certain nombre de gens s'interrogent sur la présence des juifs en Europe ?
Écoutez, moi, je ne suis pas inquiet sur la présence des juifs en Europe, et je pense qu'il ne faut pas, trop en rajouter sur ce sujet-là. Non, non, je pense qu'il y a dans les mythes juifs, dans l'histoire juive, dans la mythologie, dans la réflexion, il y a beaucoup de sources à trouver pour pouvoir vivre pleinement sa vie d'homme.
Merci Gérald Tenenbaum, c'est un livre très réussi, donc qui s'appelle Peau vive et qui est publié à la Grande Ourse. Alors dimanche prochain, ce sera mon ami Jean Lézelbaum qui recevra ici même dans cette émission Jean Pic pour discuter de son ouvrage Liberté de religion dans la République, publié chez Odile Jacob.
Merci.
Livre au Café des Psaumes, rendez-vous culturel présenté par Antoine Spire sur Judaïque FM.